Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 14 juin... Oui, on rêve tous d'ouvrir une bonne canette, d'autant que les températures vont dépasser les 30 degrés sur presque tout le pays. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Quelle chaleur!
Oui, quelle chaleur, parce que le ciel est presque totalement dégagé. Quand on regarde l'image satellite sur la France, il n'y a pas un nuage, sauf très localement dans le sud-ouest, et ça va être comme ça toute la journée. Et sous ce ciel bleu, donc les températures vont pouvoir s'envoler cet après-midi. Alors il y aura tout de même un petit risque d'orage près des Pyrénées, très localisé. Il y a un petit risque d'averse également sur l'Auvergne ou encore les Alpes, c'est tout. Et avec ce ciel bleu, donc des températures qui atteindront 23 à 26 degrés près de la Manche, mais 28 à 32 degrés dans les autres régions. Et on frôlera même les 35 degrés près de la vallée de la Garonne.
L'une des affaires d'inceste les plus marquantes, classée sans suite, celle visant le politologue Olivier Duhamel, accusé de viol et d'agression sexuelle sur son beau-fils. Les faits qui remontent à la fin des années 80 sont prescrits. Bas les masques, encore un peu de patience. La fin du masque en extérieur, ce ne sera sans doute pas à la fin du mois, contrairement à ce que disait ce matin Jérôme Salomon sur RTL. Il a été recadré. Nous verrons quels sont les risques avec le docteur Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches. Dans RTL Midi aussi, un incident sur la gigantesque centrale nucléaire de Taishan, dans le sud de la Chine, un réacteur EPR a dû être placé sous surveillance. La préméditation au cœur du procès de l'ancien compagnon de Julie Douiba Bastia, il nie, mais la victime, elle, était convaincue qu'il allait la tuer. Et à la fin, c'est Djokovic qui gagne. Nous reviendrons sur la victoire du Serbe à Roland-Garros et sur cet étrange retournement de situation après une pause au vestiaire. La question du jour sur RTL.fr, à propos des gestes barrières, avez-vous relâché votre comportement? Eh bien, vous dites non à 78%, il y a 18% de oui seulement. On attend vos appels au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle. Le couvre-feu à 23h est-il tenable? Faut-il le supprimer dès maintenant et ne pas attendre le 30 juin? Ce sera l'une des questions. Comme vous pourrez réagir à ce qu'avait dit Jérôme Salomon ce matin et qui semble démenti par le ministère de la Santé. Les politiques sont-ils encore respectés aujourd'hui? Subissent-ils de plus en plus de violences? C'est Jean-Luc Mélenchon qui a reçu un jet de farine. Et puis vous avez peut-être vu ce qui s'est passé ce week-end entre Éric Dupond-Moretti qui était sur place en campagne électorale à Péronne, sans oublier bien sûr la gifle reçue par Emmanuel Macron. Vous pourrez réagir bien sûr à l'affaire Duhamel. Vous pourrez également évoquer, si vous avez entendu les mots de Mila, l'adolescente sous protection policière depuis 18 mois, qui dit « même quand je suis dehors, je suis en prison ». Et puis on parlera également de tennis.
À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
L'histoire retiendra que Camille Kouchner a aidé à libérer la parole sur l'inceste. Dans son livre paru début janvier, La Familia Grande, elle dénonçait les viols et agressions sexuelles dont son frère, qu'elle appelle Victor dans son livre, a été l'objet de la part de son beau-père, le célèbre politologue Olivier Duhamel. Ce dernier avait même confirmé à demi-mot les faits devant les enquêteurs au printemps. Aujourd'hui, l'enquête est finalement classée sans suite pour cause de prescription. Thomas Proutot.
Absolument, décision logique, attendue même, puisque à l'époque des faits, à la fin des années 80, la prescription était fixée à 10 ans après la majorité de la victime. Victor Kouchner a 45 ans, je vous passe le calcul, mais les viols reprochés à Olivier Duhamel sont donc prescrits depuis 2014. Avec la loi actuelle qui a porté le délai à 30 ans après la majorité, ce serait 2024, mais cela n'est pas bien sûr rétroactif. Alors, si le parquet de Paris a malgré tout ouvert une enquête, c'était pour deux raisons. D'abord, poser les faits, entendre Olivier Duhamel et obtenir d'éventuels aveux, cela afin de contribuer à la reconstruction de la victime. C'est le précédent procureur de Paris, François Molins, qui avait théorisé cet objectif, c'est ce qui s'est passé. Il fallait aussi voir si d'autres victimes se manifestaient éventuellement non prescrites, il n'y en a pas eu, d'où le classement. En théorie, le fils de Bernard Kouchner peut désormais déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour forcer l'ouverture d'une information judiciaire. Il n'a pas fait connaître à ce stade ses intentions. L'avocate d'Olivier Duhamel, sollicitée par RTL, n'a pas souhaité réagir.
Les précisions de Thomas Proutot. Encore une bagarre entre bandes qui a coûté la vie à un adolescent de 16 ans. C'était hier soir à Sotteville-lès-Rouen. La rixe impliquait une cinquantaine de personnes. Un suspect âgé de 19 ans a été interpellé dans la foulée et placé en garde à vue. La question de la préméditation au cœur du procès de Bruno Garcia Cruciani devant les assises de la Haute-Corse. Il est jugé depuis jeudi dernier pour avoir assassiné son ex-compagne Julie Douib à Lille-Rousse. Les jurés ont déjà mesuré à quel point la jeune femme vivait sous emprise et les témoignages ce matin montrent que Julie Julie était convaincue qu'il allait la tuer, Anne Le Hénaff.
Roselyne, coupe blonde asymétrique et ongles vernis en blanc, se souvient. Un jour à l'apéro, elle a dit en rigolant, mais moi j'ai pas trouvé ça rigolo, « Si un jour je disparais, allez me chercher dans les fondations de la maison du village. Parce qu'il m'a dit, si tu t'en vas, je te tue et je te coule dans les fondations. » Elle poursuit en pleurant. Souvent, elle disait « Il va me tuer ». Je répondais « Mais non, il le fera pas, c'est pour te faire peur ». Derrière elle, les parents de Julie sont en larmes. Dans son box, l'accusé fixe toujours le sol. Il risque une peine plus lourde si la préméditation est démontrée. Et l'accusation s'appuie pour cela sur des éléments troublants. Quelques jours plus tôt, par exemple, Bruno Garcia Cruciani a confié les papiers des enfants à une amie. Pourquoi ? Elle dit qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait dans le sac. La veille, il paye des billets d'avion à sa sœur et à son beau-frère pour qu'ils viennent en Corse. Ses proches de l'accusé disent qu'ils n'ont rien vu venir. « Le matin, je vois mon frère dans sa voiture, » dit Nadine. « Où tu vas ?» « Je reviens. Il vous a dit qu'il allait à son club de tir ?» demande la présidente. « Non. Et vous étiez là quand il s'est entraîné à tirer la veille au soir dans le jardin avec son silencieux ?» Les deux assurent que non. Ce sont pourtant les deux enfants de 8 et 10 ans qui ont raconté la scène aux enquêteurs, spontanément.
Anne Le Hénaff au palais de justice de Bastia pour RTL. Que s'est-il passé dans la gigantesque centrale nucléaire de Taishan dans le sud de la Chine? Framatome, filiale d'EDF qui a construit cette EPR, autrement dit cette centrale de dernière génération, affirme dans un communiqué qu'elle surveille l'évolution d'un des paramètres de fonctionnement. Fin de citation. Alors, y a-t-il une fuite radioactive? La Chine dément. Que sait-on exactement, Sophie Jousselin?
Alors, évidemment, les informations sont parcellaires puisqu'on parle de nucléaire et en plus en Chine. Cependant, les informations fournies par EDF dans un communiqué font état d'une hausse de gaz rare dans le circuit primaire de la centrale. C'est le signe qu'il se passe bien quelque chose et cette présence de gaz rare peut indiquer un problème de combustible endommagé à l'intérieur du réacteur. C'est un problème de sûreté important mais qui n'oblige pas à arrêter le réacteur dans l'immédiat. L'opérateur pourrait attendre la fin du cycle du combustible pour arrêter la tranche et le changer. Cependant, EDF demande à son partenaire chinois la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire, signe quand même que la situation est sérieuse, mais difficile de savoir quelle en est vraiment la gravité en ce moment. Les autorités chinoises font état bien sûr d'une situation normale. Selon CNN qui a révélé l'affaire ce matin, l'administration américaine estime de son côté que l'installation n'a pas encore atteint un niveau de crise. Il n'y a pas, en tout cas pour l'instant, de confirmation d'une possible fuite radioactive.
Sophie Jousselin, mais il y aura des suites. La parenthèse Trump se referme à l'OTAN avec un sommet des retrouvailles à Bruxelles, rassuré par la volonté du président américain Joe Biden de revitaliser les alliances. La trentaine de pays membres va lancer un message d'unité et de fermeté vis-à-vis de Moscou et de Pékin. La déliquescence du Liban, la livre libanaise atteint aujourd'hui son plus bas historique sur le marché noir, frôlant les 15 500 livres pour 1 dollar. L'économie s'effondre, il n'y a toujours pas de gouvernement depuis 10 mois et plus de la moitié de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. On fait une pause et dans un instant, on garde son masque.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Canicule sous les masques, on va dépasser les 30 degrés sur la majeure partie du pays et les esprits s'échauffent. L'épidémie régresse. Le taux d'incidence, autrement dit le nombre de nouvelles contaminations sur 100 000 personnes, est tombé à 50. C'est le niveau le plus bas depuis fin août l'année dernière. Et ce matin sur RTL, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a laissé entendre qu'on pourrait la jouer bas les masques en extérieur à partir du 30 juin. Émotion, recadrage. En fait, on aurait mal compris, Agathe Landais.
Oui, et pourtant ce matin, Jérôme Salomon laissait peu de place au doute sur notre antenne. Écoutez.
On lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin, si les conditions le permettent.
Donc plus de masques en extérieur à partir du 30 juin. Et en intérieur, on le gardera?
Oui, vous savez qu'en intérieur, il y a beaucoup plus de risques. Et puis, vous savez que nous devons aussi viser le plus grand nombre de personnes vaccinées. Donc, faites-vous vacciner
encore
maintenant.
Encore un petit mot sur le masque. Vous nous confirmez qu'à partir du 1er juillet, c'en est fini du masque en extérieur.
En sachant que toujours, les mesures barrières demeureront,
mais
évidemment, c'est important. Et faire attention dans les grands rassemblements.
Dans la foulée, le ministère de la Santé rectifie cette ambiguïté et déclare qu'aucune décision n'a encore été prise. Ils attendent pour se décider deux avis, notamment celui du Conseil scientifique, qui doit se prononcer sur comment alléger ces mesures barrières sans prendre de risques. Enfin, on rappelle que début juin, Emmanuel Macron s'était lui dit favorable à une levée du port du masque en extérieur, différenciée région par région selon le contexte épidémique.
Alors, avez-vous déjà relâché les gestes barrières? C'est la question du jour sur RTL.fr et sur laquelle Vous allez revenir avec les auditeurs au 32-10, Pascal Praud.
Oui, sur le masque à l'extérieur, la réponse est oui. Ce matin, j'entendais Martin Blachier expliquer qu'il se promenait dans la rue avec le masque sur le menton parce que lui-même dit que ça ne sert à rien. Mmh. Bah, c'est vrai que je mentirais si je vous disais que quand je suis à l'extérieur, je porte le masque jusque au sommet du nez. Effectivement, tu as le sentiment que quand tu es à l'extérieur, tu le mets plutôt sur le menton. En fait, tu le portes pour ne pas être interpellé par les policiers, pour ne pas avoir une contravention. Mmh. Pour le reste, tu as compris que ça ne servait absolument à rien. Les autres gestes barrières, tu peux les respecter, tu fais attention, bien évidemment, aux gens que tu croises. Mais sur ce masque-là, effectivement, le masque à l'extérieur, peut-être faut-il l'enlever.
Bonjour, docteur Davido.
Bonjour à vous.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pascal ?
Je suis d'accord sur la constatation des faits. En revanche, j'attire l'attention sur le fait que cette maladie, parce qu'on parle beaucoup des gestes barrières, cette maladie, elle est surtout transmissible par voie respiratoire. Et c'est pas le fait de se laver les mains ou d'avoir pris les transports et touché une poignée dans le métro qui fait qu'on va se contaminer. Donc c'est là toute la complexité. En revanche, je suis d'accord avec la décision proposée de Jérôme Salomon, qui est, bon, on m'avait plusieurs fois interrogé dessus. J'en ai d'ailleurs discuté avec Martin Blachier. C'est qu'à partir du moment où on aura 50% de primo-vaccinés dans la population, et si mes calculs sont bons, ça nous amène au 30 juin. On pourra clairement lever le masque en extérieur, sauf situation de rassemblement. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis le 9 juin, ces situations de rassemblement, elles sont gérées, organisées, orchestrées par le pass sanitaire. Un des exemples, c'est Roland-Garros, où j'ai contribué au protocole sanitaire, oui, qui s'est très bien passé avec du public, et où typiquement, dans ces situations où tout le monde est soit testé négatif, soit déjà connu malade, soit vacciné, en effet, en extérieur, on prend pas de risque à enlever le masque.
Oui, le problème, c'est ce qu'on a vu ce week-end, hein, c'est les fêtes improvisées à Paris, aux Invalides, exactement, aux Tuileries, les spectateurs qui envahissent la pelouse au stade de Biarritz. Ça vous angoisse ?
Alors, moi, j'ai même répondu à ces questions. Je trouve que c'est un bras d'honneur aux soignants. Parce que c'est se mettre dans une situation où on sait pertinemment que même s'il y a une contamination sur 1000 personnes, cette personne va contribuer à créer des chaînes de transmission et des malades hospitalisés. Actuellement, on a des malades de plus en plus jeunes à l'hôpital. Fort heureusement, il y a une diminution de la cinétique des hospitalisations. Et je crois que je parle au nom des collègues. On est les premiers à se réjouir du fait que les hospitalisations diminuent parce que nous aussi, on a envie de pouvoir profiter
de
des terrasses.
Peu, oui, bah oui,
exactement, de souffler un peu et même de fermer ces fichues unités Covid. Je rappelle un chiffre. Je crois que 40% des paramédicaux souhaitent arrêter de faire leur travail et changer de métier. Ce qui montre à quel point la charge de travail est lourde en soins. Donc clairement, je pense qu'il faut qu'on y aille étape par étape et le passeport sanitaire, avec cette vérification, nous permettra d'être en sécurité et de pouvoir ensuite suivre le processus de ce déconfinement dans les meilleures des conditions.
Vous dites étape par étape, Benjamin Davido. Aujourd'hui, les chiffres sont bons, c'est vrai, ils sont même meilleurs qu'espérés. Mais l'Angleterre pourrait repousser la levée de ses restrictions prévues dans une semaine à cause du variant indien.
Absolument.
Ça, c'est la future nouvelle menace pour nous.
Non, je crois pas. Je crois que les variants, il faut être très clair là-dessus. Les variants, c'est un faux problème. C'est le seul problème de dire est-ce qu'on fait de la vaccination ARN messager, ce que moi j'appelle la vaccination universelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, vous le savez, je crois le chiffre, c'est aujourd'hui moins de 1% des gens sont vaccinés avec AstraZeneca et autres. C'est qu'il y a un engouement pour la vaccination ARN messager. Et toutes les études scientifiques.
C'est-à-dire Pfizer et Moderna.
Absolument. Mmh. Toutes les études scientifiques montrent que ces vaccins, et notamment beaucoup sont basés sur Pfizer, moins sur Moderna. Si on veut rester pragmatique, il n'y a pas de problème avec notamment ce variant indien. Vous savez qu'il y aura d'autres variants. C'est pas un scoop. On a parlé récemment du variant vietnamien. Et la réalité, finalement, quand on remet les pendules à l'heure, parce qu'on a beaucoup parlé du R0 les dernières fois qu'on a parlé du R0, c'est pour dire il est autour de 0,7. Mais en réalité, le R0 de cette maladie, historiquement, il est monté à 3,5. Et quand vous rajoutez 60% de contamination pour le variant anglais, 40% pour le variant indien, ça montre qu'on a une maladie qui finalement est extrêmement contagieuse, probablement aussi proche en contagiosité que la rougeole. Ce qui nous amène à quoi ? Ce qui nous amène juste à modifier notre calibrage sur l'effectif total de vaccination espéré pour obtenir l'immunité collective. Mais ça ne change à rien finalement la condition du succès de la gestion de l'épidémie.
Bon, bah au moins vous avez un discours optimiste et positif. Merci docteur Davido.
Bah écoutez, je vous en prie.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Autre question, faut-il en finir avec le couvre-feu de plus en plus contesté ? La dérogation accordée au match de demi-finale de Roland-Garros vendredi soir a été mal perçue. Demain soir, il y aura le choc colloque France-Allemagne de l'euro, puis la fête de la musique. Qu'en disent les autorités, Vincent Derosier ?
Que rien ne change. Le couvre-feu reste en place jusqu'au 30 juin. Les indicateurs vont dans le bon sens. On n'est pas inquiet, explique un conseiller, mais il faut faire attention aux relâches trop fortes. Alors oui, au sommet de l'État, on est conscient qu'il y a des débordements, des fêtes sauvages avec des milliers de jeunes qui dansent et boivent sans masque, des dérogations aussi pour des matchs haletants à Roland-Garros. Mais pour autant, la majorité veut conserver un minimum de règles pour que les Français n'oublient pas que le virus circule encore. Tiens, demain soir par exemple, Beauvau assure qu'il n'y aura aucune dérogation pour faire la fête en fan zone ou en terrasse après le match des Bleus. Ce n'est pas parce que la loi est contournée qu'elle est mauvaise, résume la députée En Marche Aurore Berger. Alors sauf décision prise en conseil de défense avant la fin du mois, et c'est toujours possible, la liberté, ça sera pour le 1er juillet, même si, rappelons-le, Matignon a encore la possibilité d'imposer des restrictions sanitaires dans le pays très localement pour moins de 10% de la population. Et s'il fallait carrément reconfiner ou imposer un nouveau couvre-feu, le gouvernement devrait prendre un décret et repasser devant le Parlement. Mais là, on parle d'un scénario noir et d'une quatrième vague de l'ampleur des précédentes.
Voilà, et ça, on n'y pense pas pour l'instant.
On n'y pense pas.
Merci Vincent. Dans un instant, on réserve nos vacances d'été. Ça, c'est plus urgent.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Ce temps estival nous projette vers les grandes vacances. Les trois quarts des Français souhaitent rester dans l'Hexagone d'après un sondage OpinionWay pour l'Heligo.com. Et dans le Lot, les villages du Quercy attirent de plus en plus les touristes. Valérie et Stéphane gèrent une maison d'hôte à Tour-de-Fort, près de Cahors.
On est déjà bien complet et ce qui est étonnant cette année, c'est qu'on a beaucoup de longs séjours. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Enfin, d'habitude, en chambre d'hôte, on vient deux nuits, trois nuits ou une nuit, on est de passage. Et là, c'est carrément, on a même 12 jours, hein, certains. Enfin, c'est vraiment étonnant et donc c'est déjà bien plein. Et essentiellement des Français, oui. Le Lot, ça évoque la nature, le calme, la randonnée, les balades, les découvertes, les châteaux.
Les espaces verts, la tranquillité. Et puis, ils découvrent aussi un patrimoine bâti qui est un peu oublié. Les vieilles fermes quercinoises.
Et la tête dans les étoiles le soir, parce qu'ici, il n'y a aucune pollution lumineuse.
Non, pas de pollution lumineuse. On est dans le noir, on voit très bien la Voie lactée. On peut s'allonger dans la pelouse tranquillement, voir les satellites passer, l'ISS. On fait des soirées ISS aussi, c'est passionnant.
Et il y a aussi de jolies maisons troglodytes à Tour-de-Fort. Témoignage recueilli par Patrick Hisson. La plage de Solaro sur la côte est de la Corse, souillée par des résidus d'hydrocarbures. Après le dégazage sauvage d'un navire vendredi, l'accès aux plages et à la baignade reste interdit du côté de Solenzara. Plusieurs tonnes d'hydrocarbures ont été récupérées ce week-end, mais la pollution est désormais de plus en plus morcelée et dispersée.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons à Libourne, près de Bordeaux, où l'agglomération a lancé dimanche dernier un minibus atypique, 9 places. Il permet d'amener les habitants des villages alentours en centre-ville, un ramassage sur mesure avec un conducteur bénévole. Reportage Juliette Chénion.
Et le bénévole du jour, c'est Hadi, commercial la semaine et chauffeur de minibus le dimanche.
Bienvenue à bord.
Départ à 8h de Saint-Cyr-d'Abzac, direction le marché de Saint-Denis-de-Pile. Une demi-heure de trajet, 10 km, 5 villages desservis gratuitement sur réservation.
En milieu périurbain comme ça, la vie est très compliquée si on n'a pas de véhicule. Donc la passagère, on va la récupérer à Saint-Martin-de-l'Aï.
Alors ça doit être Madame Dubois.
Madame Dubois, c'est Géraldine, 62 ans. Elle attend le bus, un cabas rose sur l'épaule. Laetitia Fernandez, la présidente de l'association Bouger Festif, l'accueille.
Elle n'a pas de voiture, donc elle a traversé des bois pour venir jusqu'ici. Et puis ça va lui permettre de pouvoir aller sur les marchés, se promener un petit dimanche matin.
Et puis les commerçants discutent avec vous, c'est convivial.
Le Bird Bus appartient à la flotte des bus de Libourne. L'agglomération subventionne cette association. 6 volontaires se relaient chaque dimanche.
Merci.
Hadi dépose Géraldine, il enchaîne un second service. L'association voudrait ouvrir une autre ligne, mais elle manque pour l'instant de bénévoles.
Reportage Juliette Chénion. Près de 4,5 millions de téléspectateurs ont suivi la finale dantesque de Roland-Garros hier entre le jeune espoir grec Stefano Tsitsipas et Novak Djokovic. C'est le meilleur score depuis 9 ans. Le Serbe menait 2-7-0, l'a finalement emporté après une pause au vestiaire qui semble l'avoir totalement régénéré. Le scénario était le même que face à Nadal. Du coup, on s'interroge évidemment. Jean-Michel Rascol, que se passe-t-il pendant ces arrêts au stand ?
Eh bien, rien de répréhensible en principe pour Novak Djokovic.
coach, cette parenthèse est un moment de détente et de réflexion. En plus de faire ce que l'on fait habituellement dans les vestiaires, il travaille sur sa respiration. Alors qu'il est mené 2-7-0, deux petites voix s'entrechoquent dans sa tête. L'une dit qu'il n'y arrivera pas, l'autre siffle que c'est encore possible. Il dit avoir eu une conversation avec ses deux voix intérieures. En revenant sur le cours, il n'avait plus le moindre doute. Il était redevenu le maître de lui pour faire taire la voix obscure. Un peu étrange, mais terriblement efficace. Parmi ses autres pratiques avouables, Joko observe depuis plusieurs années un régime sans gluten. Il boit énormément d'eau chaude. L'eau froide ralentirait sa digestion. Il se nourrit à base de plantes et d'avocats et a un faible pour le beurre de cajou. C'est comme le beurre de cacahuète, mais c'est plus cher. Un esthète qui gagne sans pratiquement une goutte de sueur et de sueur. Et pour ça, on n'a pas encore l'explication.
Ah bah ouais, c'est ça en fait qui agace tout le monde, ce garçon qui ne transpire jamais, Pascal Praud.
Bah, moi, ce qui m'a surpris et effectivement étonné, c'est ce qu'a dit Tsitsipas. Il a dit qu'il a quitté le cours à 2-7-0 contre lui. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé là-bas, au vestiaire. Quand il est revenu, il est soudain devenu un joueur différent. Il y a une ambiguïté quand même. Quand Tsitsipas dit ça comme il le dit...
Jean-Michel,
la respiration intérieure. Je ferai aucun procès.
Oui,
je dis simplement
quand
Tsitsipas
aussi.
Voilà,
Tsitsipas reconnaît aussi que lui-même jouait plus court et qu'il avait donné l'occasion à Djokovic de revenir dans le match.
Faut pas me raconter de salade. Quand un adversaire dit je sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Voilà,
c'est qu'il est mauvais joueur.
Ben, c'est possible, mais
c'est une hypothèse.
Mais bien sûr,
c'est vous savez, Djoko a une approche holistique de la performance.
Oui, bah, holistique,
l'ensemble du corps.
Ah, moi, et cette respiration chaude lui permet de être 15 de se régénérer, aller beaucoup mieux. Mais pourquoi pas? D'ailleurs, je voudrais que vous soyez là un petit peu tout à l'heure.
Voilà, vous allez en reparler avec les auditeurs.
Ah, moi, je trouve que c'est formidable. C'est un grand Roland Garros.
C'était génial. Franchement, les deux derniers.
Franchement, les deux matchs, c'était un grand Roland Garros cette année. Extrêmement bien commenté pour comme chaque année.
Par Jean-Michel, par Isabelle Langer, par
Gauthier.
Voilà. Exactement.
Ce sera tout.
Oui, on va parler que de ça pendant une heure et demie. Bien, mais non, on va parler des masques que plus personne ne veut porter. On va parler du couvre-feu que personne ne respecte. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et d'Olivier Duhamel, parce que Olivier Duhamel, ça peut quand même faire réagir. Disons-le, parce que c'est quand même très étrange là aussi.
La météo, Louis Baudin, on va atteindre les 35 degrés dans le sud-ouest.
Ouais, exactement, autour de la vallée d'Agaronne, à Nîmes également, jusqu'à 35 degrés, mais on dépassera fréquemment les 30 degrés dans toutes les autres régions, sauf près de la Manche, où là on restera autour de 25 degrés, ce qui est déjà très bien. Tout ça avec un ciel quasiment tout bleu toute la journée. On surveillera juste un risque orageux un peu plus marqué en fin d'après-midi sur les Pyrénées. Ça ne devrait pas aller très loin en plaine. Et puis risque d'averse également sur l'Auvergne ou encore du côté des Alpes.
Bon, et demain, même programme, mais pour autant, on ne parle pas de canicule.
Non, parce que c'est que pour avoir de la canicule, il faut trois jours consécutifs avec des valeurs très élevées à la fois la nuit et le jour, ce que l'on n'atteindra pas avant le retour des orages entre mercredi et jeudi qui feront chuter les températures. Mais ça n'empêche pas effectivement que nous ayons trois journées particulièrement chaudes, notamment celle de demain où une nouvelle fois on aura un temps très sec et très ensoleillé avec des orages peut-être un petit peu plus marqués en fin de journée près des Pyrénées, sur le sud du Massif central ou encore entre les Alpes et la Corse, mais ailleurs toujours du grand soleil et les températures toujours aussi élevées, 21-24 degrés l'après-midi sur le littoral de la Manche et 29 à 34 degrés dans les autres régions.
Voilà, chaud mais pas caniculaire. Merci d'avoir rappelé les fondamentaux, Louis, ça fait toujours du bien. À suivre, le rappel des titres, il va être 13h. RTL.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Nous sommes avec Erel et bonjour Erel, vous êtes étudiante à Toulouse, mais vous allez peut-être nous parler des Invalides, parce que les Invalides, la pelouse des Invalides, en ce moment, c'est Woodstock, disons-le. Donc, le soir, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont sur la pelouse et qui sont évacués manu militari. Erel, quel est votre sentiment?
Alors moi, je voudrais apporter tout mon soutien en fait à tous les jeunes qui ont été réprimés hier, déjà pour commencer.
Eh bien, on va en parler dans une seconde. Le rappel des titres avec Christelle.
L'une des affaires d'inceste les plus marquantes classées sans suite, celle visant le politologue Olivier Duhamel, accusé de viol et d'agression sexuelle sur son beau-fils. Les faits qui remontent à la fin des années 80 sont tout simplement prescrits. La plage de Solaro sur la côte est de la Corse souillée par des résidus d'hydrocarbures. Après le dégazage sauvage d'un navire vendredi, l'accès aux plages et à la baignade reste interdit du côté de Solenzara. En Chine, un réacteur nucléaire de nouvelle génération sous surveillance. Il s'agit de la gigantesque centrale de Taishan. CNN évoque une possible fuite radioactive. La Chine affirme que tout est normal. Le groupe français Framatome, qui a construit cette EPR, évoque une augmentation de la concentration de gaz rare. Le Premier ministre palestinien salue le départ de Netanyahou après 12 ans passés au pouvoir. C'est la fin, dit-il, d'une des pires périodes de l'histoire du conflit israélo-palestinien. C'est l'ultra-droitier Naftali Bennett qui est désormais Premier ministre en Israël, à la tête d'une coalition hétéroclite qui va de la gauche pacifiste à la droite radicale, en incluant un parti islamiste.
Les auditeurs ont la